Alors bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup Martial aussi pour ces propos introductifs qui vont nous mener à ce temps d'exhortation biblique. Alors je m'appelle Derek et vous avez les salutations fraternelles de l'Assemblée protestante évangélique de Saint-Étienne, où nous sommes depuis presque 3 ans. J'ai le privilège d'être pasteur dans cette assemblée. Et ma femme, Mélissa, aurait aimé se joindre à nous avec nos 3 enfants ou 4 enfants, vu qu'elle est enceinte, mais la grossesse l'empêche de venir, donc elle vous salue aussi chaleureusement. Chaleureusement. Alors, j'ai une question pour vous ce matin, pour commencer. Et elle devrait s'afficher derrière, on m'avait dit que j'avais une zapette, je ne sais pas si elle est par ici, en tout cas... Ah, peut-être que quelqu'un est parti avec. Alors je remercie Martial quand même, malgré cela. C'est l'enlèvement de la zapette. Si tous vos désirs étaient comblés, seriez-vous réellement heureux? Si tous vos désirs étaient comblés, serions-nous réellement heureux? On peut se poser cette même question en termes négatifs, c'est-à-dire si tout ce qui nous gêne en ce moment, qui fait qu'on est un peu frustré, anxieux, si toutes ces choses-là étaient enlevées, serions-nous réellement heureux? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Rumspringa? Quelqu'un? Personne? Alors c'est un terme d'origine néerlandaise, allemande, on ne sait pas trop l'origine, mais la Rumspringa est un rite de passage dans la communauté Amish. La Rumspringa arrive alors que les adolescents Amish ont 17-18 ans et ils ont le droit de se couper de leur communauté Amish et de s'adonner à tous les plaisirs que le monde offre. Vous avez peut-être entendu parler, n'est-ce pas? Ça s'appelle la Rumspringa. Et alors que les adolescents Amish ont été dans un cocon très, très traditionnel et conservateur, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes et ils ont le droit, pendant 1 an, 12 mois, à obtenir tout ce qu'ils veulent. Tout. Tous leurs désirs sont satisfaits, leurs passions sans retenue. Les voitures, le sport, les filles, les garçons, les drogues sont même autorisées. Toutes sortes de vices modernes. Afin d'avoir une réponse à notre question, si tous nos désirs seraient satisfaits, serions-nous réellement heureux? Nous pourrions demander aux Amish, n'est-ce pas? Ce qui est très intéressant, c'est que 95% des jeunes adolescents Amish, alors qu'ils ont fait le tour de toutes leurs passions possibles et imaginables, dans tous les excès autorisés, 95% reviennent dans la communauté Amish, se rangent au rythme jusqu'à la fin de leur jour. Frères et sœurs, nous vivons dans le monde du divertissement, n'est-ce pas? Des désirs satisfaits, de la gratification instantanée, le plaisir maximal. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on pose cette question à quelqu'un d'autre. J'aimerais que nous posions cette question au roi Salomon. Et c'est pour ça que je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2. À partir du verset 1. Ecclésiaste chapitre 2, juste après les proverbes, Ecclésiaste chapitre 2, à partir du verset 1. Et ce passage est traditionnellement connu sous le nom de la grande expérience de Salomon, la grande expérimentation du roi Salomon. Alors lisons ensemble. Et il sera aussi affiché derrière moi. Voici ce que l'Ecclésiaste, ou le professeur, si vous préférez, dit dans la parole de Dieu. Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaye la joie, et tu goûteras au bonheur. Et j'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. Verset 2, j'ai traité le rire de folie, et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin, tout en me conduisant avec sagesse, et de m'attacher à la folie. jusqu'à ce que je vois qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. Verset 4, je me suis lancé dans de grandes entreprises, je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins, des vergers, j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Verset 6, je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières, j'ai acheté des serviteurs, des servantes, j'en ai eu d'autres nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs et des brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, des richesses, des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs, des chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes, des femmes en grand nombre. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai refusé à mes yeux tout ce qu'ils réclamaient. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail. Et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire. Et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à la poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce que l'on fait sous le soleil. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors l'Ecclésiaste, si vous n'êtes pas trop familier avec ce livre, est un livre très littéraire qui fait partie d'une sous-catégorie de poésie de sagesse. Et cette littérature était très connue à l'époque d'Israël. Et cette sous-catégorie s'appelle la littérature pessimiste. Et c'était connu pour des personnes renommées, avec une position bien établie, de montrer leur sagesse en montrant ce pessimisme. En montrant, en fait, j'ai tout essayé, j'ai tout réussi, et en fait, ça n'a pas tenu ses promesses. Et l'Ecclésiaste nous surprend, n'est-ce pas ? Des fois, il a l'air d'être déprimé. Ecclésiaste chapitre 7, verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Des fois, on a l'impression que l'Ecclésiaste est déprimé. Et des fois, on a même l'impression que l'Ecclésiaste est hérétique, qu'il dit des choses qui sont complètement fausses. Écoutez avec moi Ecclésiaste 10, 19. On a fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette parole, mais elle a l'air un peu fausse, n'est-ce pas ? L'argent répond à tout. Pourtant, au milieu de l'apparente négativité, du désespoir, des questions difficiles nous sommes posées ce matin. Frères et sœurs, des questions difficiles nous sont posées sur notre joie, sur notre but dans la vie, sur notre vie quotidienne, sur les attentes que vous avez de la vie, de votre semaine, de votre journée, de ce culte, des attentes que vous avez de votre conjoint, de votre conjointe, et surtout des questions sur notre éternité. Et donc, dans ce verset, nous avons la grande expérimentation, la grande expérience du roi Salomon. L'un des versets les plus cités quand nous pensons à l'Ecclésiaste est lequel, chers frères et sœurs ? Vanité. Des vanités, tout n'est que vanité, n'est-ce pas ? Et le mot en hébreu est le mot hevel, et ce mot est très difficile à traduire. Le mot vanité est à la fois entièrement vrai, bon, mais à la fois, pour qualifier nos vies, l'image que nous donne l'Ecclésiaste en disant vanité est la suivante. Pensez cette semaine quand vous êtes sorti vers 6h, 6h30 du matin pour aller travailler en ouvrant votre porte et en allant vers votre voiture ou les transports en commun. Et alors qu'il fait froid, n'est-ce pas ? Vous expirez, vous avez une vapeur, n'est-ce pas ? Et cette vapeur, alors que vous soufflez, elle est là quelques secondes et elle disparaît. C'est exactement ce que veut dire ce mot « hevel », le mot « vanité », c'est ce fait que la vie est insaisissable, n'est-ce pas ? Elle est là, on essaye de l'attraper et elle n'est plus là. La vie, telle que le décrit le professeur, l'Ecclésiaste, est insaisissable, elle est fugace, elle est mystérieuse. une stabilité acquise sitôt disparue, une santé de fer qui si souvent se dégrade rapidement, une amitié qui se brise. Et c'est nos vies. C'est ma vie. Elle est là comme cette vapeur et je veux essayer de la saisir, de garder ce plaisir pour toujours et je passe à autre chose, la vie passe à autre chose. Et comme il nous a été rappelé ce matin, nous ne contrôlons pas grand-chose, n'est-ce pas? En fait, nous vivons dans un monde que nous n'avons pas créé et sur lequel nous n'avons que très peu de contrôle. Et le plus vite nous arrivons à cette vérité, ce constat, le mieux nous nous porterons. Révèle, fugace, insaisissable. Et donc, dans sa position royale, le professeur, l'ecclésiaste, cherche à trouver la source de la joie, d'où cette grande expérience. Et moi, ce que je trouve absolument frappant, si jamais vous regardez au verset 2, c'est qu'il donne immédiatement la réponse à sa recherche. Vous l'avez vu ? Verset 1, il dit « Viens maintenant, je vais t'éprouver par le plaisir pour découvrir ce qui est bon. » Verset 1. Verset 2, la conclusion, elle est là. Mais cela s'est aussi avéré être dénué de sens. Alors, bon dimanche à tous. Bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue au sermon le plus rapide de l'histoire des sermons de la rue Sandra. Mais c'est quoi cette grande expérience? Regardons ensemble. Plusieurs choses que l'ecclésiaste, le professeur, le sage fait. Premièrement, au verset 2, le rire. Est-ce que dans le rire, les attentes qui sont dans mon cœur vont être comblées? Verset 3, l'alcool. Verset 4, les projets de construction. Verset 5, le travail à domicile. Verset 7, la compagnie. Verset 8, l'entrepreneuriat. Encore verset 8, l'argent. Et verset 8, la sexualité. 8 choses que notre ecclésiaste expérimente pour aller chercher le but de sa vie. Et il le dit au verset 9 et 10, lise avec moi, « Je n'ai pas refusé à mes yeux tout ce qu'il désirait. Je n'ai retenu mon cœur d'aucun plaisir. » D'où notre question de départ. Si tous vos désirs, mes désirs seraient satisfaits aujourd'hui, est-ce que ma semaine serait finalement joyeuse et heureuse? Salomon n'est pas un individu quelconque, c'est le roi d'Israël. Il est le roi du peuple de Dieu et ce que le père de famille est à la famille, le roi l'est pour son peuple, un leader moral, un chef spirituel, un garant, un guide. Et nous voyons dans 1 Roi, verset 1 Roi chapitre 3 et 1 Roi chapitre 4 qu'il développe sa sagesse et que tout le monde et tous les autres rois représentants des autres royaumes viennent le voir, tellement sa sagesse surpasse toutes les autres. Et alors que je lis ce verset et ces versets avec vous ce matin, je ne peux pas m'empêcher de voir mon cœur en miroir dans la parole. Je ne peux pas m'empêcher de voir à quel point ce livre et ces lignes parlent sur ma disposition. Le pasteur Timothée Keller a écrit un livre, Les idoles du cœur, et il dit, je cite, « Nos cœurs sont des fabriques à idoles. » Nos cœurs sont des fabriques à idoles, et les idoles ne sont pas nécessairement de mauvaises choses. Regardez cette liste. Le rire, est-ce mauvais? Les projets de construction, est-ce mauvais? Pourtant, nous détournons l'usage et nous en faisons une source. Il serait quand même dingue que nous ayons dans l'Ancien Testament un passage biblique qui nous cite un don fait par Dieu pour son peuple, que le peuple de Dieu a pris et a détourné l'usage pour en faire le Dieu. Il serait quand même dingue que nous ayons un passage dans, par exemple, 2 Rois 18:4, où nous voyons un enseignement alors que le roi Ézéchias vient au pouvoir. 2 Rois 18:4. Le roi Ézéchias vient au pouvoir, c'est un bon roi, il fait le ménage, et alors qu'il fait le ménage, écoutez ce que le roi Ézéchias fait au sein du peuple d'Israël. Il fit disparaître les hauts lieux, il brisa les pierres sacrées et abattit les mâts d'asphère. Il brisa en morceaux le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué. Pause. Ce serpent d'airain avait été donné par Dieu, n'est-ce pas? Il avait été donné par Dieu alors que le peuple s'était plaint. Et alors que le peuple se plaint, il se fait mordre par des serpents venimeux. Et Dieu donne ce serpent d'airain afin que quiconque regarde soit guéri. C'est une préfiguration de Jésus. Mais ce serpent d'airain, il est là maintenant, dans le peuple d'Israël. Et Ézéchias, il fait quoi? Il le brise. Que s'est-il passé? Nos cœurs fabriquent des idoles. Lisons la suite. Jusqu'alors, les Israélites avaient pris le serpent d'airain, avaient brûlé de l'encens, et on l'appelait Nehushtan. Incroyable, n'est-ce pas? De voir à quel point nos cœurs prennent des choses bonnes, détournent leur usage et cherchent en ces choses le but de la vie, la signification de la vie et la joie éternelle. Le serpent d'airain pourvu pour guérir les Israélites de la blessure mortelle, ce serpent est devenu un mini-dieu. Ne sommes-nous pas comme Israël, frères et sœurs? Ne suis-je pas comme Israël? À prendre quelque chose de bon, en détourner l'usage et à me lancer dans cette quête comme Salomon, de trouver la signification de la vie. J'ai 35 ans, j'ai pas mal d'aînés dans l'église où j'ai le privilège de servir et j'aime beaucoup les écouter parce qu'ils m'apprennent beaucoup de choses sur la manière dont la vie va se dérouler. Et une chose qu'ils nous disent, c'est la dure réalité du plaisir décroissant. Est-ce que vous connaissez cette loi du plaisir décroissant? C'est-à-dire que quand vous commencez à faire quelque chose pour la première fois, vous avez un plaisir immense, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure que vous y revenez, votre plaisir disparaît progressivement. Et donc vous allez chercher autre chose. Et le plaisir est immense, et le plaisir est tôt ou tard décroissant. C'est ce qu'on appelle la loi du plaisir décroissant, et je l'expérimente sur pas mal de choses dans ma vie. Plus on y revient, moins on y retire du plaisir. Et ce texte ne nous dit pas, soyons des personnes ermites, n'ayons aucun projet, soyons fades, soyons cyniques. Ce texte ne nous dit pas ça. Faites de grandes choses dans votre semaine. Attendez des grandes choses de la vie. Rêvez grand, vivez pour la gloire de Dieu. Tout ça, oui. Mais faire ces grandes choses-là ne va pas vous guérir. Vouloir la grandeur ou vouloir performer ne va pas guérir notre cœur et le manque et le vide que uniquement Dieu peut combler. L'Ecclésiaste va un peu plus loin, si vous regardez à partir du verset 10-11, il dit justement que c'est un don de Dieu de faire du travail et d'y trouver du plaisir. Et ça c'est bon. Vous avez un cabinet d'infirmière, infirmier, bah, soyez heureux de l'avoir. Vous êtes enseignant et vous avez fait une bonne heure de cours, yes! Vous êtes grimpeur et lagueur, vous aimez couper les arbres et les tailler, bah, c'est un don de Dieu de profiter d'avoir du plaisir là-dedans. Encore plus, l'Ecclésiaste va un peu plus loin, il dit, si ça vous donne un fruit dans lequel vous pouvez profiter, votre travail vous permet de vacances, votre travail vous permet un bon restaurant, allez-y. C'est biblique. Mais attention, dedans, vos attentes ne seront pas comblées. Mes attentes ne seront pas comblées, parce que c'est en Christ uniquement qu'elles le sont. Et donc cette grande expérience du roi Salomon à fabriquer des idoles, et comme nous l'avons vu, ces idoles n'ont pas rendu heureux. Alors où se tourner? Vers quelle source aller? Comment faire à partir de là? Et c'est un peu comme si on avait trois types de personnes ou trois types de phases dans nos vies. Alors des fois, les trois phases arrivent dans la même journée. Des fois, chaque phase prend 10 ans. La première phase ou le premier type de personne que nous sommes, c'est « je crois vraiment que ici-bas, sur Terre, toutes mes attentes vont être comblées par cette vie. » Et peut-être certains d'entre nous sont là-dedans. Ils disent « ouais, c'est bon, moi je sais que ce que je suis en train de créer là, ça va vraiment être différent. » La voiture que je suis en train d'acheter, ça va vraiment faire quelque chose d'exceptionnel et après ça ira. Et ça c'est une phase de croire encore aujourd'hui que le monde va satisfaire nos attentes. Deuxièmement, c'est d'être dans un pessimisme ambiant, de dire de toute façon ce monde n'apporte rien et je replie bagage. De toute façon, ça ne va rien m'apporter. Et d'être dans une vague de réel désespoir. C'est le cas en France en ce moment, n'est-ce pas? Au travail, à la pause café peut-être. Gens sont cyniques, malheureux, parce que des attentes sont bien trop hautes vis-à-vis d'instances ou de personnes qui ne peuvent pas apporter la joie et la satisfaction. Et c'est là où nous, chrétiens, nous avons un rôle de donner un autre son de cloche. Parce que la troisième phase, c'est d'être dans une joie, d'aller chercher à la source et de connaître et de comprendre cette tension ambiante de « je cherche à me satisfaire par ce monde et si souvent je suis triste parce que ça n'arrive pas comme ça devrait arriver ». Est-ce que je suis le seul à être frustré ce matin d'avoir des attentes non satisfaites ? Je ne sais pas, peut-être que je prêche que pour moi, c'est bon. J'étais convaincu que ça allait à droite et puis ça part à gauche et d'un coup, il n'y a plus rien qui va. La source. Cette grande expérience de Salomon nous pose la question de la source de notre joie. Ce texte pose la question de la source de notre bonheur. Pour comprendre ça, nous devons essayer d'aller creuser pour voir quel est l'objectif de notre ennemi. Quel est l'objectif du diable sous le soleil ? Son objectif n'est pas uniquement de nous faire tomber, chers amis, de nous faire tomber dans le péché. C'est très probablement une de ses stratégies, comme nous le verrons, mais la fin de ce moyen est de nous enlever et de nous mener loin de la vie en Dieu. Son objectif, c'est de nous rendre si frustrés, si malheureux, que nous nous détachons des valeurs du royaume, des déceptions, de tout ce qui entoure la Bible ou l'Église ou le sacrifice à la croix, pour nous isoler comme une brebis loin d'un troupeau vulnérable. Et pour nous rendre et nous mener loin de cette vie en Dieu, le diable a beaucoup d'outils dans sa boîte à outils pour nous mener dans cette posture de doute, d'irritation, de rébellion. Un de ces outils est forcément la tentation. Mettez-vous à la place de Salomon, il a tout à sa disposition. Forcément, il est tenté d'aller encore plus loin. Mais la tentation n'est pas l'outil préféré. Sa stratégie préférée, c'est l'accusation, chers amis. Son activité principale, c'est d'aller accuser. Il aime nous accuser devant Dieu. Et même devant nous-mêmes. Le diable utilise une connaissance surnaturelle, un casier judiciaire. Ça fait 2000 ans ou plus qu'il est dans le business d'aller tromper et d'aller accuser les porteurs d'images dont nous sommes. Il connaît nos péchés, il les ramène sous nos yeux. Il sait comment on a perdu notre patience cette semaine, comment on peut mépriser nos frères et sœurs. Et il dit « tu ». Tu. Voyez cela comme un match de boxe. Le premier coup que le malin nous donne, c'est la tentation, ça nous déstabilise. Le deuxième coup qu'il nous donne, qui nous met par terre, c'est l'accusation. Et alors qu'on est par terre, c'est là où on doute de Dieu, où on va chercher autre part que Dieu, où nous voulons une vie hors Christ. Le premier coup est pour nous déstabiliser, le deuxième est pour faire tomber. Et on sait très bien la manière dont le roi Salomon est parti dans une spirale, n'est-ce pas ? Une spirale. Et si on regarde les accusations, moi les accusations que je reçois dans mon cœur chaque jour, elles sont vraies souvent. Elles sont vraies, je veux dire, ça utilise des choses que j'ai faites, mais je veux que mon avocat prenne la place pour pouvoir aller à la source de la joie. Dans un livre d'un puritain, précieux remède contre les techniques de Satan, voici ce que l'auteur dit. Satan aime naviguer au gré du vent, à adapter les tentations des hommes à leurs conditions, à leurs tendances. Si c'est dans la prospérité, il tentera de renier Dieu. Si c'est dans l'adversité, il tentera de se méfier de Dieu. Si leur connaissance est faible, il tentera d'avoir de mauvaises pensées de Dieu. Si leur conscience est tendre, il tentera aux scrupules. S'ils sont à l'aise, à la sécurité charnelle, s'ils ont de l'audace, à la présomption, s'ils sont timides au désespoir, s'ils sont souples à l'inconstance, s'ils sont rigides à l'impénitence. Il continue. Satan a des pièges pour les sages, pour les simples, pour les hypocrites, pour les droits, pour les âmes généreuses, pour les âmes timorées, des pièges pour les riches, pour les pauvres, pour les vieux, pour les jeunes. Heureuses les âmes qui ne sont pas prises et retenues dans les pièges qu'il a tendus. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pensons à Salomon, il avait tout, n'est-ce pas ? Il avait accès à tout. Et forcément, dans sa grandeur et sa notoriété, il a été pris dans le piège d'aller encore plus loin dans sa grande expérimentation. Il a tout essayé, il a cherché le plaisir, il a cherché l'épanouissement, la satisfaction, le sens, la vérité, la paix et la joie continuelle. Et alors qu'il a été dans cette direction-là, il a été mené loin de la source et le dégoût arrive. Peuple de Dieu, ici à Lyon Sonnera, nous serions fous de mépriser Salomon, n'est-ce pas ? Nous serions fous de nous dire qu'aujourd'hui nous sommes hors de ces pièges. Il serait trop facile de le mépriser, de se croire plus sage que lui. D'ailleurs, la Bible nous dit que c'est l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, n'est-ce pas ? Et alors que nous voyons la manière dont Salomon a été tenté, un des enseignements est que le malin aime naviguer au gré du vent. Si vous n'avez jamais été tenté par l'alcool, c'est probable que cet après-midi, le diable vous tente par l'ivrognerie. Mais si vous êtes très intelligent, la tentation viendra par la fierté. Si vous êtes critique, par la médisance, la calomnie, par l'orgueil. Les attentes sont fortes dans nos cœurs. C'est un peu comme si, alors que nous naissons dans ce monde, nous avons dans notre cœur un logiciel qui nous formate, c'est ce qu'on appelle le péché, qui nous mène à être convaincus que nos attentes vont être satisfaites dans ce monde. Et pour montrer que rien dans ce monde peut nous satisfaire, dans une interview, Tim Keller nous dit « Les canards aiment nager. Il y a l'existence de l'eau pour satisfaire ce désir. » Les bébés aiment manger, et il y a l'existence du lait maternel. Tim Keller conclut et dit, « Si tes désirs naturels ne peuvent pas être satisfaits par ce qu'offre ce monde, c'est que probablement tu as été créé pour un autre monde. » L'éternité, en relation avec notre Créateur. Alors que ce monde déchu, notre péché, qui a entraîné la mort et la séparation d'avec Dieu, peut uniquement être rétabli, reconnecté par la croix. Et c'est pour ça que la croix est bien plus qu'une décision. Le sacrifice de Jésus n'est pas uniquement un code théologique dans lequel nous croyons, c'est surtout une vie dans laquelle nous voulons marcher. Un transfert d'allégeance et une attente en Dieu et pas en ce monde. Peu importe qui vous êtes aujourd'hui, la Bible nous montre que nous sommes une cause perdue si nous voulons vivre par nos propres efforts et si nos attentes sont démesurées dans ce monde. Depuis Adam et Ève dans le parfait jardin d'Éden, en présence de Dieu, la tentation et la chute de l'humanité. Pensez à David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Il a désobéi, il a échoué. Pensez à Salomon, l'homme le plus sage de la terre. Il a désobéi, il a échoué. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'Élie, de Moïse, d'Abraham, de Jean ou de Pierre ou de nous ? En relisant les évangiles récemment, j'ai réalisé que les disciples posent la même question du début du ministère de Jésus jusqu'à dans la chambre haute. Est-ce que vous savez c'est quoi cette question ? C'est qui le plus grand ? Alors que Jésus annonce sa mort, ils sont omnibulés par leur position dans le royaume. Et ils demandent jusqu'à dans la chambre haute, ça va être qui le premier là ? C'est qui le général ? C'est pour ça que si on pense à Jean-Baptiste, lui était un héros parce qu'il voulait uniquement diminuer pour que le maître puisse grandir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. C'est pour ça que nous avons besoin d'une intervention divine, que Dieu en personne venu sur terre racheter le peuple qui le glorifie. Par la croix. Il s'est livré pour nous, pour vous. On a célébré, commémoré ce sacrifice il y a quelques minutes. Et dans notre semaine, puissions-nous marcher avec une joie profonde, avec des attentes en Jésus, et en sachant que la source est Dieu lui-même. Et profitons surtout de tous les cadeaux qu'il nous donne. Nous avons besoin de Jésus tous les jours. Nous avons besoin de sa grâce, de son pardon, de sa patience Et nous avons besoin en communauté, ensemble, de le manifester. Deux citations et un verset pour notre semaine. Première citation de Hudson Taylor, qui a ouvert la Chine intérieure pour l'Évangile. Il a dit « Il n'y a pas de changement dans son amour. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il nous promet « Je ne te quitterai jamais. Je ne te décevrai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. » Et son exhortation et son commandement les plus sérieux sont « Demeurez en moi et moi en vous. » Réjouissons-nous. Première piste pour notre semaine. Réjouissons-nous de ce que le Seigneur nous donne de vivre. Vraiment, pas avec une semi-culpabilité, mais est-ce que c'est grave si je suis heureux là dans ce que Dieu me donne? Mais alors que nous nous réjouissons dans notre semaine de ce que Dieu nous donne de vivre, puisons en lui notre identité et notre motivation. Notre identité, votre confiance en vous-même, la confiance en moi-même n'émane pas de ce que je fais, mais de ce que Dieu est. Deuxième citation pour notre semaine. Un pasteur puritain en Angleterre a dit « Ce n'est pas la lecture hâtive, mais la méditation sérieuse des vérités saintes et célestes qui les rend profitables et douces à l'âme. Ce n'est pas le contact de l'abeille avec la fleur qui recueille le miel, mais c'est le fait qu'elle reste un certain temps sur la fleur qui en retire la douceur. Ce n'est pas celui qui lit le plus, mais celui qui médite le plus, qui se révélera le chrétien le plus doux, le plus sage et le plus fort. » Et si cette semaine, vous preniez individuellement ou alors en couple ou alors entre amis, 15 minutes pour méditer un psaume, apprendre par cœur un psaume. Le pasteur John Piper a dit que la plus grande utilisation des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et tout ce que vous voulez, la plus grande utilisation des réseaux sociaux, c'est qu'ils vont prouver dans l'éternité que nous avions tous le temps. C'est juste qu'il était mal alloué, n'est-ce pas? Donc je sais, moi je me dis, mais j'ai pas 15 minutes. Si, je les ai. Elles sont pas au bon endroit. Et c'est vrai. Si nous prenions 15 minutes, avec quelques versets comme ligne de défense pour les sensibilités de nos âmes tendres, comme aimaient le dire les puritains, les consciences fragiles, où nous sommes vacillés de côté et d'autre par l'ennemi. Verset pour notre semaine. Colossiens 2, 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Mettez-vous à la place de Salomon, alors qu'il a tout essayé, tout vécu, qu'il écrit « Vanité n'est que... » Tout est vanité. La culpabilité qui devait régner dans son cœur. Être autour de cet homme devait être désagréable. Une bonne idée à soumettre? Non, mais ça ne marche pas. Une difficulté qui vous arrive et vous partagez? Ah ouais, t'inquiète pas, la vie, elle va t'allumer, garçon. Imaginez cette spirale sans fin. Et la lumière, elle est là pour nous faire capituler, pour nous montrer qu'il est bon, il est profitable, il est doux d'être en présence de Dieu. Que nous puissions vivre à la lumière des Écritures, plein de joie, plein d'espérance en Dieu, et à fond dans les activités que vous avez, en ayant conscience que cela ne nous guérira pas, uniquement Christ le fera, et que nos vies peuvent le glorifier, et que les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, nous allons pouvoir marcher dedans cette semaine, individuellement, en famille ou en église. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est inspirée, qui est vraie et qui nous montre encore à quel point nous sommes dépendants de toi. Comme des brebis qui sont à la suite du bon berger, nous reconnaissons ta voix et nous voulons te suivre. Merci pour ce passage qui nous reprend, qui nous surprend, que nous puissions naviguer à tes côtés, Seigneur. Que nous puissions être pleins de joie et que notre source soit en toi. Nous te remercions pour la paix que tu donnes dans nos cœurs et que tu puisses nous envoyer dans notre semaine pour te glorifier. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.